Du chien dans le ventre. La Commune de Paris, au jour le jour. Une série en 10 épisodes. Un récit de Patrick Lemoyle. Aujourd'hui, épisode 3. L'espoir du triomphe. Nous sommes la semaine du 2 au 9 avril 1871.
On avait pour le moment une activité de la commune qui se passait, j'allais dire, presque indépendamment de Versailles, même s'il y a des échanges avec les républicains entre Versailles qui vont à l'Assemblée de Versailles pour essayer de convaincre Thiers de négocier avec la commune. Mais Thiers est convaincu, comme le gouvernement, ils sont convaincus que il n'y a qu'une seule hypothèse, c'est l'écrasement. Dès le début, toute leur conception, c'est on ne peut pas laisser exister un espace aussi important. Bon, la France est la deuxième économie du monde, hein, avec ses colonies. Paris, c'est le centre culturel et économique, un des centres culturels et économiques de l'Europe. On ne peut pas laisser dans ce centre-là, le peuple décidé par lui-même. C'est pas possible. Et donc, dès le début, ils sont convaincus qu'il faut qu'ils tranchent dans cette question-là. Et donc, il va y avoir, à partir de l'armée de Versailles, à chercher à se renforcer pendant tout ce temps-là. Parce que comme elle n'avait pas le rapport de force, bon, alors il y a des télégrammes réguliers envoyés par Thiers en toute la province. Le gouvernement est à Versailles. C'est à Versailles que se trouvent les décideurs. Il y a une armée qui est efficace. Alors, j'en lis un, par exemple. L'Assemblée siège à Versailles, où s'achève de s'organiser une des plus belles armées que la France ait possédées. Les bons citoyens peuvent donc se rassurer et espérer la fin d'une lutte qui aura été douloureuse mais courte. Donc, il réorganise. Alors, il a négocié avec les Prussiens pour essayer d'étoffer un peu ces 40 000. Il semble que déjà au 1er mars, il soit pas loin de 60 000, et que Bismarck autoriserait même passer à 80 000, à condition qu'il y ait l'engagement que ces 80 000 hommes ne soient utilisés contre Paris et pas contre les Prussiens. Bon, voilà. Et donc, l'état des forces à ce moment-là, c'est ça. Et les Prussiens sont... D'ailleurs, c'est, les communards ont tendance à dire les Prussiens versaillais. C'est pour ça que mon lapsus n'est pas du tout... C'est à force de lire les textes. Et bon. Donc, les Versaillais sont... sont pas loin quand même, parce que Versailles, c'est pas très très loin, et ils sont un peu au-delà de la Seine, après le pont de Neuilly, pour ce qu'on voit en face, hein, l'avenue de la Grande Armée, le pont de Neuilly, et ils sont un peu en face, pas loin de Courbevoie, et surtout, ils ont en main le Mont Valérien. Bon. Alors le Mont Valérien, c'est un truc décisif, parce que c'est un fort qui est le fort le plus important et qui peut tirer sur jusqu'à la moitié de Paris quasiment. Hein. Enfin, bon. Et ce Mont Valérien, le 18 mars, il restait 20 hommes dedans. Il suffisait d'aller, de dire bonjour, on entre, on prend le Mont Valérien. Personne ne s'est préoccupé d'aller prendre le Mont Valérien. Bon. Et du coup, les Versaillais, quand ils se sont aperçus de ça, ils ont envoyé des hommes et ils l'ont récupéré. Bon. Donc, ils ont le Mont Valérien, ce qui est un véritable problème et qui va être un problème tout le long de l'affrontement. Donc, quand arrive le dimanche 2 avril, on est dans cette situation. On a les Versaillais dont l'armée commence petit à petit à se reconstituer, qui ont comme point de force le Mont Valérien. Bon. On est ce jour-là, il y a quand même des nouvelles. Quand on est au 2 avril, les mauvaises nouvelles de province s'accumulent. Hein, bon, il pleut. Pour la première fois depuis la fin du siège, un bruit de fusillade et du canon arrive sur Paris. Bon, alors que s'est-il passé? il s'est passé que une partie des responsables militaires de la commune, dont une bonne partie sont blanquistes, avaient fait une reconnaissance vers le Mont Valérien, pour essayer de voir un peu ce qui se passait, ce qui était quelle était la volonté, difficile à savoir. Bon, ce qui est évident, c'est que l'armée versaillaise réagit tout de suite, donc elle bombarde. Elle bombarde même un pensionnat de Neuilly. Mais surtout, les gardes nationaux qui avancent vers Courbevoie, un peu au-delà donc, du pont de Neuilly. C'est le déclenchement de la guerre civile, en fait. Le 2 avril, c'est le déclenchement de la guerre civile, puisque c'est la première fois, depuis la fin du siège, que Paris est bombardé, tout simplement. Alors, la réaction. Donc, à la commune, il y a une partie des membres de la commune qui sont furieux, qui disent « Mais pourquoi vous avez été voir ce qui se passe du côté du Mont Valérien ?» Quelle était l'utilité, hein? Bon. Mais dans toute cette affaire-là, la commune décide de donner une responsabilité à un dénommé Cluseret, qu'elle le nomme délégué à la guerre, pour essayer de chapeauter tout ce que fait la garde nationale et en fait chapeauter ce que font les blanquistes, hein, pour le dire autrement. Le fait que le canon tonne sur Paris a pour conséquence qu'il y a une mobilisation dans tous les quartiers populaires de Paris. C'est-à-dire tout le monde, hop, les gardes nationaux étaient organisés par quartier, par rue. Hein. Un bataillon, une compagnie de la garde nationale, c'était trois rues d'un quartier. Donc, battre le rappel, reconstituer son groupe et partir, était les bataillons descendent des quartiers populaires, s'installent dans tout Paris, et avec comme réaction... Il faut aller à Versailles. Il faut aller à Versailles, il faut se venger. C'est pas possible. Versailles attaque, on va à Versailles. Alors, aller à Versailles, c'est un débat qui existe depuis le 18 mars. J'en ai pas parlé, mais dès le 18 mars, les blanquistes, d'ailleurs, là, à ce moment-là, d'ailleurs, ça se discutait probablement, proposaient d'aller à Versailles. C'est-à-dire de dire, on a récupéré les canons, ils sont partis, il faut les poursuivre. Ils sont pas capables de se défendre. Il est vrai que toutes les descriptions de l'état des troupes versaillaises ce jour-là est d'une telle nature qu'on peut penser qu'effectivement qu'une descente sur Versailles aurait pu se passer sans difficulté majeure pour les fédérés. Bon, la semaine suivante, il y a eu une autre tentative de prendre Versailles. Hein. Il y a Alman, celui dont on parlait dans le 5e arrondissement, hein, qui est envoyé à Versailles pour mettre sur pied un groupe de personnes qui prendraient le château de Versailles pendant que les troupes fédérées attaqueraient Versailles. Bon. Et puis, c'est abandonné. Mais alors que ça a commencé, Alman est réellement allé à Versailles, a réellement constitué un premier groupe avec toute une stratégie. On peut discuter. Mais je veux dire, c'est la préoccupation existait. Bon, là, ce qui se passe, c'est très différent parce que c'est pas du tout un plan organisé. C'est la réaction au bombardement par les Versaillais de Paris. C'est une réaction populaire. Organisé bien sûr par les blanquistes, parce que eux ils sont pour aller à Versailles. Bon, la commune se réunit, donc je dis met quelqu'un pour chapeauter les blanquistes, et surtout disent, avant de partir, il faut un état détaillé par bataillon, combien on a de forces, quelle artillerie on a, quel matériel on a pour transporter l'artillerie, qu'est-ce qu'on a comme munitions, est-ce qu'on a les éléments pour avoir un appui d'artillerie efficace, et est-ce qu'on a les moyens de nourrir des troupes qui vont attaquer Versailles. Bon. Les commandants, alors dans les trois commandants sur lesquels ils viennent de mettre Cluseret comme pour les chapeauter, s'occupent pas, disent oui à la commune et continuent à préparer l'attaque sur Versailles. Hein. Toute la nuit, les bataillons se massent entre la porte de Versailles au sud et la porte de Neuilly, avec une idée qui est quand même l'idée, on va réussir ce qu'on a fait au moment de la Révolution française, la marche sur Versailles. Ça va être pareil. Hein. Les troupes vont fraterniser. On descend en masse sur Versailles. Les troupes vont fraterniser et on va l'emporter. Mais le problème de cette affaire, c'est l'enthousiasme et l'espoir du triomphe anime tout le monde. Hein, voilà. Il y a dans cette histoire-là l'idée que la puissance populaire va déborder le rapport de force militaire. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au moment des canons va se repasser au moment des canons à Montmartre et dans le reste de Paris, va se repasser à ce moment-là. Bon. Alors la Commune prend une mesure après les bombardements qui montre que... Enfin bon, on n'est pas à la mesure des choses, hein, parce qu'il y a un arrêté qui dit que Monsieur Thiers, Faf, Picard, sont mis en accusation, leurs biens sont saisis et mis sous séquestre. Ouais, ça fait peur... À Thiers, il va être mis en accusation et ses biens sont mis sous séquestre. Bon. Et donc, on a ce bouillonnement dans Paris. Et ce jour-là, la Commune, alors là, on est le dimanche 2 avril, vote le texte sur la séparation de l'Église et de l'État et la détermination d'un salaire maximal dans les services communaux. Mais c'est incroyable, c'est qu'on a... Et j'insiste sur ce point-là, parce qu'on voit ce qui se passe dans le bouillonnement populaire, puis la Commune qui essaye de construire quelque chose au plan politique, pas forcément en complète connexion avec ce qui se passe dans la ville. Quoi. Bon. Alors la séparation de l'Église et de l'État, c'est évidemment une décision extrêmement importante. Hein. Bon, alors le texte est intéressant. J'en dis deux mots parce que, chez les communards, le sentiment anticlérical est hyper dominant. Et dans les milieux populaires, à cette époque-là, dans les milieux populaires à Paris, la majorité des gens sont pas enterrés religieusement. À Paris, je parle bien de Paris. Alors qu'à Paris, 60% des habitants ne sont pas nés à Paris. C'est l'exode des débuts de l'industrie. Enfin, voilà. Bon. Mais ça veut dire que les gens, quand ils arrivent à Paris, ils sont pris dans l'ambiance révolutionnaire, ouvrière. À Paris, par exemple, 95% des hommes savent lire et écrire, ce qui n'est pas le cas en France. À ce moment-là, c'est la majorité, mais ce n'est pas du tout 95%. Tout le monde, enfin, je veux dire, c'est le peuple ouvrier de Paris est quand même une spécificité par rapport au reste des villes françaises qui est tout à fait particulière. Quoi. Bon. Et donc, dans cette ambiance, dans ce chaudron révolutionnaire, bon, l'épiscopat, c'est ceux qui soutiennent Napoléon III, c'est ceux qui sont contre le rationalisme, contre le socialisme, contre le communisme, qui sont... mais avec un poids énorme. Hein. Par exemple, dans les hôpitaux, les infirmières sont des religieuses et c'est une bataille que vont mener les clubs et les associations féministes pour que des femmes puissent être infirmières. Parce que c'était la fonction des religieuses, point. Donc, oui, ça donne une idée de comment le parti clérical verrouillait la société en décalage complet. En France, ça fonctionnait, dans le reste de la France, ça fonctionnait. À Paris, ça ne fonctionnait pas du tout. Quoi. Donc on est là dans la séparation de l'Église et de l'État, ça apparaît comme une mesure de bon sens. Ce qui est intéressant, c'est l'argumentation. Hein. Le principe de la République, c'est la liberté, donc la liberté de conscience, et le budget des cultes est donc contraire au principe de la liberté de conscience, puisque on demande à des gens qui ne sont pas croyants de financer des gens des cultes. Et, troisième argument, le clergé est complice des crimes de la monarchie, donc l'Église est séparée de l'État, le budget des cultes est supprimé, et les biens de l'Église sont réquisitionnés, sont déclarés propriété nationale. Bon. Donc c'est assez radical, simple et radical, comme dirait l'autre, mais c'est en face avec le peuple de Paris. Hein. On n'est pas du tout là dans des mesures... après, il peut y avoir d'autres choses, on y reviendra, plus compliquées, mais ça, pour tout le monde, c'est évident. Quoi. Bon, voilà. Donc il y a ça, puis la détermination d'un salaire maximal dans les services communaux, parce qu'on ne doit pas avoir des places de faveur dans une république. Bon, c'est 6 000 francs par an. Voilà. Donc la commune discute de ces questions tout à fait décisives pendant que les bataillons de la garde nationale se pressent aux portes de Paris.
Vers 9h du matin, les fédérés, postés au pont de Neuilly et aux alentours, dormaient encore dans leur corps de garde, faisaient la popote, déjeunaient, prenaient leur café ou jouaient au bouchon, quand une masse indéterminée de troupes versaillaises, dont personne n'avait signalé l'approche, se répand à Courbevoie, Neuilly. Au rond-point, un garde national voit tout d'un coup une bande de soldats. Le garde national tire aussitôt sur l'homme en tête et l'étend, raide mort. À peine a-t-il déchargé son fusil que lui-même tombe sous les baïonnettes, est achevé à coups de crosse. Le poste tout entier est envahi, massacré. Sauf que quelques individus qui fuient de part et d'autre et que les balles n'atteignent pas. Sur le rond-point sont alors installés des canons et mitrailleuses qui dominent la grande et large avenue triomphale. Les Versaillais balayent Courbevoie et Puteaux. Ils descendent sur Paris. Une patrouille de gendarmes avance jusqu'au pont de Neuilly et somme les gardes nationaux en faction de se retirer. Ceux-ci répondent en invitant les gendarmes à faire cause commune avec le peuple. Le maréchal des logis donne l'ordre de charger. Mais les gardes nationaux ripostent et les gendarmes se retirent. Plusieurs compagnies de gardes nationaux se lancent alors sur leurs traces. Ils remontent jusqu'au rond-point. Là, ils sont accueillis par la fusillade des zouaves de charrette, embusqués derrière une barricade et qui les mitraillaient au cri de « Vive le roi !» Surpris, décimés, les nationaux battent en retraite, zouaves, gendarmes, argoussins et lignards derrière eux. La bataille reflue jusqu'à la porte Maillot, qu'un instant on pourrait croire en danger. Survinrent alors les tirailleurs de la presse, une centaine de volontaires garibaldiens qui rétablirent le combat. Peu à peu, les gardes nationaux arrivaient en foule. Ce que voyant, les Versaillais battirent en prompte retraite de l'autre côté du pont. À partir de midi, tout rentre peu à peu dans le silence.
Alors, le plan qui avait été prévu par les généraux, sans en parler à la commune, puisque la commune disait « Avant de faire un plan, on veut connaître un état des rapports de force militaire avant de partir, quand même, bon, voilà. » il y a des témoignages, on sent les gens, ils dorment, ils sont prêts à partir, enfin, voilà. Bon, mais pour donner une idée, c'est-à-dire, chaque bataillon de la garde nationale rejoint le général qui lui convient. On ne dit pas le 20e par attendant, c'est moi je vais là, ah, tiens, il y a le général, moi je vais avec Eudes, moi je vais avec Duval, moi je vais... Et bon, tout fonctionne comme ça, hein. Et donc... en plus, les officiers et les sous-officiers sont élus, ce qui est un principe démocratique très très bien. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément de connaissances militaires très avancées. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de ces bataillons ou de compagnies de la garde nationale qui partent avec pas assez d'armes, qui n'ont pas de ravitaillement. Parce que quand on se bat à défendre sa barricade dans son quartier... c'est facile de se faire ravitailler en armes, en munitions, etc. Quand on part à l'offensive, c'est un peu une autre paire de manches. Et donc tout ça se fait dans un joyeux désordre, pour dire les choses poliment, hein. Donc le plan était une colonne sortait par la porte Maillot, l'avenue de la Grande Armée, pont de Neuilly, et partait vers le Mont Valérien et se séparait autour du Mont Valérien avec l'idée « le Mont Valérien ne tirera pas ». Donc, ce qui est fantastique, ils avaient envoyé... Alors, je n'ai pas réussi à élucider. J'ai plusieurs versions, je ne sais pas quelle est la plus juste. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'il y a un responsable de la commune qui a été envoyé, voire le responsable le commandant, ou l'officier qui dirigeait le Mont Valérien. Il revient en disant qu'il ne tirera pas. Alors, ce que je ne sais pas, c'est s'il s'est avancé ou si, autre version... Le responsable en question a été changé dans la nuit. Enfin, toujours est-il que quand les fédérés arrivent sur le Mont Valérien. Le Mont Valérien tire, effectivement, et provoque une panique dans les troupes, parce que là, on a des troupes qui partent en disant on est tranquille, on y va. Alors, en plus, le Mont Valérien est en hauteur, ils sont dans la plaine en dessous. C'est pas du tout comme c'est aujourd'hui, c'est très, cette partie-là de Paris qui est complètement... comment dirais-je, il y a des habitations partout. Bon, donc, et il y a une des deux... Enfin, ils sont séparés en deux colonnes. Il y a une colonne qui est totalement massacrée. Hein. La panique rompt les bataillons. Ils regagnent en Paris en désordre, en criant à la trahison. Parce qu'on leur avait dit que le Mont-Valérien n'allait pas tirer. Ils se sont fait massacrer par le Mont-Valérien. C'est un scandale. C'est quoi ces responsables? Ils ne savent pas que... Enfin, vous voyez, quoi. Et l'autre partie... Qui est partie au nord du Mont Valérien, donc, elle est moins massacrée parce que les tirs ont été tournés principalement vers Paris, mais est complètement isolée. Elle est complètement isolée, elle se fait arrêter très facilement par le sinistre Galifet, qui, dès qu'il arrête des gens, il les passe par les armes, hein, les gardes nationaux, et Flourens rejoint cette colonne pour essayer d'avancer vers Versailles, pour arriver à Versailles par le nord. Alors, Flourens, c'est un personnage intéressant parce que ça fait partie de ces républicains radicaux, romantiques, qui était un universitaire, un scientifique, qui a donné des cours, qui est un biologiste, qui a participé à de multiples opérations militaires un peu partout. Il a été en Crète auprès des Grecs, mais il faisait des campagnes pour l'athéisme, donc il va quitter ce Paris. Enfin, il a été renvoyé, il a été condamné plusieurs fois, mais il était très reconnu par les bataillons de Belleville. Il avait été élu par tous les bataillons de Belleville comme commandant. Enfin, c'était vraiment quelqu'un qui avait une grande aura. Hein, c'est romantique, révolutionnaire. Et donc, il arrive avec ses 1000 soldats qui se font tailler en pièces, qui partent en catastrophe, c'est la débandade. Il refuse de partir avec eux, il reste. Et il se fait arrêter par l'armée versaillaise et il est sommairement exécuté. C'est le début de ce qui va être la politique systématique des Versaillais, qui est d'assassiner les prisonniers. C'est la première chose. Alors, au sud, les combats ont été plus longs. Ils ont duré... Ça a duré une journée. C'est le 3 avril, c'était fini. Au sud, ils sortent par Issy d'un côté et Châtillon de l'autre, Châtillon-Clamart d'un côté et Issy de l'autre. Bon... ils sont rapidement bloqués. Ceux qui sont allés plus loin sont allés jusqu'à Clamart. Mais ils sont rapidement bloqués et ils reculent sur le plateau de Châtillon où ils passent une nuit. Il y a des renforts qui sont envoyés sur ceux qui sont bloqués sur le plateau de Châtillon. Alors, le plateau de Châtillon, c'est Duval qui dirige le plateau de Châtillon. Alors Duval fait partie de ces blanquistes à l'international qui était un ouvrier fondeur en fer qui travaillait dans une des grandes usines de Paris, la fonderie Gouin, dans le 11e arrondissement, qui avait mené des grèves, etc., qui était très très reconnu dans le 11e, qui dirigeait cette armée qui est bloquée sur le plateau de Châtillon. Bon, mais les renforts qui arrivent sont ridicules. Normalement, le plateau est protégé par les forts d'Issy et de Vanves. Il y a deux forts qui étaient tenus par les fédérés, mais qui n'avaient pas les munitions adaptées et suffisantes pour les protéger, enfin tout ça, bon voilà. Et la troupe dirigée par Émile Duval accepte de se rendre, bon, parce qu'ils estiment qu'il faut limiter les dégâts, ils sont 2000 quand même, hein. Donc ça fait 2000 personnes qui se rendent, avec l'engagement qu'ils aient la vie sauve s'ils se sont rendus. Dès qu'ils sont rendus, les soldats qui sont passés du côté des gardes nationaux, parce qu'il y a des soldats qui étaient restés dans Paris après le 18 et qui étaient parmi les gardes nationaux, sont fusillés. Bon. Et le convoi part vers Versailles. entre deux haies de militaires, et il rencontre le général Vinoy, qui ordonne de fusiller les officiers. Alors ceux qui ont négocié disent « c'est pas possible ». Vinoy dit « est-ce qu'il y a un chef ?» Duval s'avance. Deux autres le suivent, un commandant dénommé Émile Lecoeur et un autre, un commandant des volontaires de Montrouge, enfin, disent « moi aussi, fusillé immédiatement ». Donc, sur les quatre qui dirigeaient les colonnes, il y en a deux qui sont tués, Flourens et Duval. Et c'est la défaite, surtout en rase campagne. 2000 fédérés qui partent jusqu'à Versailles. Les descriptions qui sont faites de leur arrivée à Versailles, c'est bon, les gens qui ont du fric, qui viennent les taper dessus, cracher dessus, des coups de canne. Enfin, c'est vraiment un truc... L'abomination, commence là. Hein, et là, on est le 4 avril. Bon. Donc, c'est véritablement une défaite sur toute... qui s'explique, hein, parce que, alors, y compris ce jour-là, les témoignages qu'on a depuis, parce que, bon, ça, les communards ne les avaient pas, mais nous, on les a, c'est qu'à certains moments, il y a des parties des troupes versaillaises qui n'ont pas voulu tirer. Hein. Donc, ce jour-là, y compris, il y avait les Versaillais, le tiers, le gouvernement et les Versaillais n'avaient pas le contrôle parfait des troupes qu'ils envoyaient au feu. Bon, mais pas suffisantes, quoi. Bon. Et le problème, c'est que des troupes, les gardes nationaux n'ont jamais été au feu. Ils ont été au feu une seule fois à la sortie de Buzenval en janvier, où il y a eu plusieurs milliers de morts. Bon. Et ils ont été envoyés au massacre. Et quand ils ont avancé, le général a dit « il faut reculer ». Enfin, bon, ça a été vraiment... Mais ce n'est pas une force armée prête à l'attaque. Ce n'est pas la même chose de défendre son quartier, sa barricade, son morceau de fortification, que de partir à l'attaque. Ça nécessite quand on lit les témoignages sur la façon de tenir les barricades, il y a des pratiques révolutionnaires sur les 20, 30 ou 40 dernières années. On sait qu'il faut faire ça. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de commandements. On se met vite d'accord. Pour attaquer, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour attaquer, il faut décider d'un objectif et être capable d'aller au bout de cet objectif tous ensemble. Bon. Et donc, manifestement, ce qui s'est passé les 3 ou 4 octobre est une catastrophe. Une catastrophe militaire, puisqu'il y a des milliers de morts et des milliers de prisonniers, mais aussi une catastrophe politique. Parce qu'elle met en cause l'autorité du commandement. C'est-à-dire que les gens qui partent en pensant que le Mont-Valérien ne va pas tirer, et qui tirent et qui rentrent dans Paris en disant partout « on nous a trahis, la commune nous a trahis », etc. Bon, c'est un vrai problème politique. Et puis, ça donne de l'oxygène du côté versaillais. C'est-à-dire que la façon dont le gouvernement tiers et les Galifets et Vinoy traitent les moindres insubordinations est extrêmement violent. Hein. Tous les régiments qui se sont mal comportés au moment des canons il y a 15 jours sont dissous, les meneurs sont envoyés au bagne, et n'importe quelle moindre insubordination est traitée extrêmement violemment. Mais parce que, du côté parisien, il n'y a pas les moyens de faire basculer ça. Donc, tout ça crée une situation, évidemment, tout à fait délicate, parce que cette attaque mal contrôlée, mal organisée, se termine par une défaite en rase campagne qui a des conséquences et militaires et politiques.
Le général Duval, qui se trouvait sur le plateau de Châtillon avec 2000 hommes, dépourvus de vivres et munitions, et qu'entourait la foule grandissante des Versaillais, avait instamment demandé du renfort. On bâtit le rappel dans notre arrondissement, autour du Panthéon, et hier, vers 5 heures, environ 600 hommes étaient rassemblés sur la place. Pleins d'ardeur, nous désirions marcher immédiatement au feu, en compagnie des autres corps envoyés des quartiers méridionaux de Paris. Mais il paraît que ce mouvement n'eût pas été conforme aux précédents militaires, et l'on nous dirigea vers la place Vendôme, où, privés de toute nourriture, de tout objet de campement, nous n'eûmes pendant plus de la moitié de la nuit d'autre réconfort que d'entendre chanter dans le ministère voisin les brillants officiers du nouvel état-major « Buvons, buvons à l'indépendance du monde !» À 2 heures de la nuit, un ordre du général fait quitter à notre troupe, déjà bien diminuée par la désertion, l'abri précaire de la place Vendôme, et l'on nous mène à la place de la Concorde, où nous essayons de dormir sur des dalles jusqu'à 6 heures du matin. C'est alors qu'on nous dirige vers Châtillon, les os rompus par ce premier bivouac et sans nourriture aucune. Pendant la marche, notre petite bande se fond encore et partie 600 la veille, nous arrivons 50 sur le plateau. Une demi-heure avant que les troupes versaillaises, feignant de passer en armes à la cause de la Révolution, se fassent aider à l'escalade des remparts, au cri répété de « Nous sommes frères, embrassons-nous, vive la République !»
Vous écoutez « Du chien dans le ventre », la commune de Paris au jour le jour. Une série en 10 épisodes sur Fréquence Paris Pluriel. Aujourd'hui, épisode 3, l'espoir du triomphe.
Les réactions de la commune à cette défaite, elles sont de deux ordres. Le premier, c'est au niveau militaire. Donc, ceux qui ont organisé ça sont remerciés. Enfin, il y en a un qui est mort, de toute façon, Duval. Ils sont remplacés par Cluseret. Alors, Cluseret, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un personnage étrange. Enfin, Cluseret, il était responsable de la garde nationale qui a massacré les Parisiens en juin 1948. Après, il était dans les troupes de la colonisation. Puis il est parti de l'armée française. Il a rejoint Garibaldi. Puis après, dans la guerre civile américaine, la guerre de sécession, il était du côté nordiste. Puis il est revenu en France. Bon, donc c'est un militaire. Et donc c'est à ce type-là qu'on donne la responsabilité. Alors sa réponse, ça va être hiérarchie et discipline. Bon, premièrement, se donner les moyens qu'il n'y ait qu'un seul commandement, que les gens... Parce que là, en fait, quand je disais tout à l'heure, chacun va rejoindre qui il a envie de rejoindre, c'était vraiment comme ça que ça se passait, donc pour être un peu efficace. Bon. Mais deuxièmement, il remet en place... une organisation différente des bataillons de guerre. Parce que dans la garde nationale, il y avait les bataillons de guerre et les autres. Les bataillons de guerre, c'est ceux qui allaient au front. Les autres, c'est ceux qui restaient dans le quartier, qui organisaient le quartier. Bon. Et alors, il met en place un texte qui dit que font partie de bataillons de guerre tous les citoyens de 17 à 35 ans non mariés, les gardes mobiles licenciés, les volontaires de l'armée et les civils. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, il casse en partie... l'unité territoriale. Parce que quand on décide que dans les bataillons de guerre, c'est par âge, tout, en plus le texte va changer, après ça va être de 19 à 40 ans, c'est obligatoire. Enfin bon, passons. Mais on passe. Il y a là une rupture dans la conception de la garde nationale. Bon, jusqu'à présent, ceux qui se battaient, c'était ceux qui étaient pour la commune. Les autres, ils ne se battaient pas. Bon. Là, d'une part, on décide, ceux qui se battent, c'est obligatoire pour tout le monde de tel âge à tel âge. Donc, à la limite, les personnes qui sont dans ce cadre-là, ils peuvent être recrutés pour la garde nationale. Et il y a des perquisitions pour qu'ils soient recrutés. Deuxièmement, on désarme les gardes nationaux qui refusent de se battre. Les bataillons bourgeois, on les désarme. Mais donc, petit à petit, la garde nationale est en train de bouger en un truc beaucoup plus militaire classique avec une mobilisation obligatoire. Hein. Et puis, en plus, autour de tout ça, il y a, le fait que les soldes deviennent différenciés, les sous-officiers, les officiers gagnent plus que les gardes nationaux. Donc, on a quand même un truc qui est en train de bouger, qui est un problème. Parce que dans les gardes nationaux, ceux qui ont le plus d'expérience de combat, ce n'est pas forcément les jeunes. c'est ceux qu'ont connus 48. C'est ceux qui... Non, mais c'est des gens qui sont réellement déjà battus. Et tout ce système que met en place, qui est mis en place à ce moment-là, fait, comment dirais-je, atteint un des éléments de force de la garde nationale, qui est la proximité géographique. T'es dans le même bataillon que ton voisin, que celui qui est dans l'étage à côté. Les femmes se connaissent et toi, quand tu le fais pas... Enfin, il y a une cohérence sociale qui est extrêmement forte, qui est mise en cause par cette décision. Et c'est un véritable problème.
Tribune d'Arthur Arnoux, 38 ans. Journaliste, homme de lettres, membre de la Commune. Une guerre civile, une guerre politique, dont toute la grandeur et toute la justification résident dans la conviction des combattants, qui ne sont pas seulement des soldats, mais qui sont des idées vivantes, ne peut se conduire comme la guerre contre un envahisseur étranger. Là, nulle scission, nulle hésitation possible. En face de Versailles, quelle différence ? Évidemment, à Paris, comme dans le reste de la France, tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde ne souhaite pas d'un cœur égal le triomphe de la révolution sociale. Quelques-uns la regardent même comme abominable. L'abominable est la désolation. Cela, quoi qu'on dit ou quoi qu'on décréta, il est impossible de les faire marcher. Ou s'ils marchent une fois, ce peut être avec l'arrière-pensée, soit de passer à l'ennemi, soit de lâcher pied au premier coup de fusil, de créer la panique ou d'amener la défaite. Souvent, parmi les non-combattants du fait de la loi, il se trouve des hommes dévoués, résolus, énergiques, qui eussent versé leur sang avec joie sous le drapeau rouge à franges d'or, tandis qu'on peut avoir de la peine à recruter dans les limites d'âge les compagnies destinées à aller au feu. La garde nationale, avant d'être une force militaire, est une force morale. Chaque garde pense, réfléchit, raisonne à une volonté. Il faut aussi songer à l'opinion des femmes, qui exercent une caution admirable sur le mari, leurs amants, leurs fils, leurs frères, leurs pères. Quand eux, les hommes, habitent sur le même palier, vous ferez difficilement comprendre à l'un de ces hommes, et surtout à sa femme, qu'il doit se faire tuer parce qu'il a 39 ans et 11 mois, tandis que son voisin restera à l'abri du danger parce qu'il a 40 ans et quelques jours. Exposés ensemble au même péril, ils se piqueront d'émulation et se battront carrément.
La deuxième chose, c'est l'adoption du décret des otages. Bon, parce que les témoignages sur la barbarie, la façon... Flourens, par exemple, il a été tué d'un coup de sabre. On lui a coupé la tête en deux d'un coup de sabre, quoi. Bon, c'est... Et on dit que les Versaillais ont tiré sur les ambulances, enfin, etc., etc. Donc, il y a une forme de barbarie qui provoque des réactions très, 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 très fortes. Et donc, la Commune, à la fois, elle se débarrasse des blanquistes qui lui posaient problème au commandement de la garde nationale, mais elle reprend, des mesures répressives qui sont, en fait, qui sont vraiment de cet esprit-là, quoi. Et adopter le décret des otages. Alors, dans l'émotion, parce que là, il y a quand même une forte émotion, hein, et c'est évident, la Commune vote un texte disant... Alors, vote le même jour, deux textes qui ne disent pas la même chose, qui montrent bien, d'ailleurs, l'émotion. Le premier, c'est l'armée versaillaise continue à méconnaître les conditions de la guerre entre peuples civilisés, nos ennemis continuent à massacrer encore un seul de nos soldats, nous répondrons par l'exécution d'un nombre égal au double de prisonniers. Donc ça, c'est le premier, hein. Toujours généreux et même juste dans sa colère, le peuple aborde la guerre civile, mais il doit se protéger. Et deuxièmement, après ce texte-là, ils adoptent un décret sur les otages qui était discuté depuis une journée et demie. Je raconte pas la façon, mais c'est un décret assez impressionnant parce qu'il dit « Toute personne prévenue de complicité avec le gouvernement peut être arrêtée et accusée. Il y a un jury qui sera institué dans les 24 heures et qui statuera dans les 48 heures, en 3 jours. Bon, voilà. Tous les accusés retenus coupables seront les otages du peuple de Paris. Toute exécution d'un prisonnier de guerre ou d'un partisan du gouvernement régulier de la Commune de Paris sera suivie de l'exécution d'un nombre triple des otages retenus en version, etc., etc. Donc on constitue un stock d'otages qu'on dit qu'on va fusiller si Versailles se fait des actes d'une telle férocité. Ce décret pose plein de problèmes parce que c'est étonnant parce que le jour, par exemple, où le décret est publié, c'est le jour où, dans le 11e arrondissement, la population brûle la guillotine. C'est-à-dire qu'il y a le décret qui est publié dans le journal officiel le même jour. Dans le 11e arrondissement, les gens se regroupent pour brûler la guillotine sous la statue de Voltaire. Mais en même temps, les blanquistes, la préfecture de police, interdisent trois journaux. Trois journaux qui défendaient les Versaillais en disant les mensonges, c'est inacceptable, on ne peut pas accepter ça. Et donc on a quelque chose où manifestement, il n'y a aucune réflexion sur qu'est-ce qui va faire mal du point de vue du rapport de force et politique et physique, j'allais dire, à Versailles. Par exemple, personne ne se dit « on va prendre la Banque de France ». Ça fait pas partie de la discussion. Et donc, on se fixe sur cette histoire d'otage qui a deux faiblesses. Dès le départ, elle a deux faiblesses. La première, c'est qu'il n'y a plus de vrais otages. C'est-à-dire, tous les otages qui ont un peu de prix pour Versailles, ben, ça fait longtemps qu'ils sont partis de Paris, hein. Donc il ne reste plus que, et on va le voir, ceux qui sont arrêtés, c'est les jésuites, l'archevêque, des prêtres, et tout, bon, qui effectivement ont une responsabilité morale dans tout ça, mais enfin, c'est quand même pas eux qui ont participé au massacre directement. Bon, et donc, et qui seront abandonnés, on le verra par la suite, par Versailles, qui n'en a rien à faire de ces individus. Mais il n'y a plus il y a pas de vraie monnaie d'échange en termes d'individus. Et deuxièmement, c'est pas l'esprit des communards de faire ça. C'est-à-dire qu'il y a une déclaration extrêmement violente qui va leur être reprochée pendant des mois et qui va permettre des campagnes dans toute la province sur c'est des sanguinaires, les otages et machin, etc. Bon, alors qu'ils sont pas capables de le faire, qu'ils vont mettre un temps infini à mettre le tribunal en place parce que ça fait bon. Et donc on a là une décision qui est une décision qui est prise dans l'émotion, dont l'efficacité me semble très, très, très discutable et qui a beaucoup d'inconvénients au plan politique.
Proclamation du Comité central de la Garde nationale, 5 avril. Citoyens de Paris, ce qui se passe en ce moment est l'éternelle histoire des criminels cherchant à se soustraire au châtiment en commettant un dernier crime qui leur permette de régner, impunis, par l'épouvante. Ils sont une poignée de parjures, de traîtres, de faussaires et d'assassins qui veulent nettoyer la justice dans le sang. La guerre civile est leur dernière chance de salut. Ils la déchaînent, qu'ils soient mille fois maudits et qu'ils périssent. Citoyens de Paris, nous sommes revenus au grand jour de sublime héroïsme et de vertu suprême. Le bonheur du pays, l'avenir du monde entier sont dans vos mains. C'est la bénédiction ou la malédiction des générations futures qui vous attend. Travailleurs, ne vous y trompez pas. C'est la grande lutte. C'est le parasitisme et le travail, l'exploitation et la production qui sont aux prises. Si vous êtes las de végéter dans l'ignorance et de croupir dans la misère, si vous voulez que vos enfants soient des hommes ayant le bénéfice de leur travail et non des sortes d'animaux dressés pour l'atelier et pour le combat, fécondant de leur sueur la fortune d'un exploiteur ou répandant leur sang pour un despote, si vous ne voulez plus que vos filles, que vous ne pouvez élever et surveiller à votre gré, soient des instruments de plaisir au bras de l'aristocratie d'argent, si vous ne voulez plus que la débauche et la misère poussent les hommes dans la police et les femmes à la prostitution, si vous voulez enfin le règne de la justice, travailleurs, soyez intelligents, debout, et que vos fortes mains jettent sous vos talons l'immonde réaction. Citoyens de Paris, commerçants, industriels, boutiquiers, penseurs, vous tous, enfin, qui travaillez et qui cherchez de bonne foi la solution des problèmes sociaux, le comité central vous adjure de marcher unis vers le progrès. Inspirez-vous des destinées de la patrie et de son génie universel. Le comité central a conscience que l'héroïque population parisienne va s'immortaliser et régénérer le monde. Vive la République, vive la Commune.
Troisièmement, Cluseret revalide la stratégie de défense, qui est la stratégie la plus connue par les révolutionnaires, qui est la stratégie de la barricade. On est chez nous, on se défend. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est une, du point de vue militaire, c'est évident. L'idée qu'ils ont à ce moment-là, c'est que Versailles ne pourra jamais prendre Paris. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Bon. Le problème de tout ça, c'est que quand on s'affronte réellement, mais c'est toute la question de qu'est-ce que c'est la commune. Est-ce que c'est une commune parisienne, enfin, un conseil municipal qui va plus loin que les conseils municipaux, ou est-ce que c'est un pouvoir qui cherche à prendre une place dans l'ensemble de la société française. Bon. Et donc, c'est toute cette discussion qui n'est pas réglée, parce que globalement, tout le monde se met d'accord sur l'autonomie municipale, prend des décisions qui vont au-delà de l'autonomie municipale, essaie d'avoir des relations internationales, et ne prend pas de mesures qui sont qui correspondent à ce positionnement par rapport à l'État. Et donc, voilà. Alors, dans cet espace vont s'engouffrer les conciliateurs. Bon. Alors, je ne parle pas des obsèques de tous les morts, c'est pareil, 200 000 personnes, bon, mais qui entretiennent l'idée qu'il faut se venger, quoi. Bon. Mais apparaissent des conciliateurs, c'est-à-dire des courants politiques qui, très très divers, des courants politiques très très divers qui vont faire des propositions de conciliation entre la Commune de Paris et Versailles. Bon. Le premier de ces groupements conservateurs, c'est un truc qui s'appelle l'Union républicaine pour les droits de Paris, qui est reconstitué de tous ceux dont on a parlé depuis le début, de tous ces républicains qui pensent que ce serait bien que Paris ait une commune, que là, Versailles est allé trop loin, mais quand même les communards aussi, qui sont, en fait, qui sont des républicains bourgeois, qui sont ils sont pour une république, mais une république qui ne remet pas en cause le pouvoir capitaliste et qui ne permet pas le pouvoir du peuple. Bon, voilà. Mais qui trouvent quand même que Versailles va trop loin et qu'il y a quand même beaucoup de royalistes à Versailles. Donc ça, c'est ça, cette union-là, qui font des grandes déclarations, qui vont aller à Versailles, qui vont, etc. Le deuxième groupement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une pression. Hein. Il y a y compris en dehors des groupements dont je parle, là, il y a par exemple des affiches signées par 50 citoyens, ici, des appels à Bordeaux, des appels en province. Enfin, il y a toute une pression du mouvement républicain contre la guerre civile, contre les massacres des Versaillais, et en disant à la commune, respectez le pouvoir central, en gros. Bon. La deuxième structure qui est significative là-dedans, c'est l'Union nationale des chambres syndicales. Alors c'est en fait, je dirais, c'est le MEDEF de l'époque, enfin à l'échelle parisienne. Hein, bon. Mais il y a dedans certaines coopératives ouvrières. Mais c'est l'essentiel des chambres syndicales qui sont toujours à Paris, parce que les entreprises sont toujours entreprises. Hein. Une entreprise privée continue à fonctionner normalement. La Fonderie Gouin, l'Imprimerie Nationale, qui est une entreprise privée, tout ce beau monde continue à travailler, à fonctionner comme avant. Hein. On n'est pas à l'époque de la nationalisation des moyens de production du tout. Hein. Bon. Et donc, tous ces gens-là sont à Paris, ils essaient de faire fonctionner tant bien que mal leur affaire, mais faut comprendre que pendant, ça se bat partout, mais le soir, dans les café, il y a du monde, il y a un tiers des salles de spectacle qui sont ouvertes, les théâtres continuent à jouer, Paris continue à vivre, hein, y compris dans les quartiers un peu bourgeois, la fête continue. Hein, c'est, bon. Donc l'Union nationale des chambres syndicales, Ben, elle cherche à continuer à faire marcher ses affaires. Hein. Bon, elle va jouer un grand rôle dans le règlement de l'histoire des courriers, parce que pour elle, c'est important. Mais ils vont aussi jouer un rôle dans... il faut que Versailles reconnaisse des droits à la commune. Enfin, voilà, quoi. Mais ça va jusqu'à des membres de l'International. Pierre Denis, qui est un proudhonien, fait un texte avec un protocole qui essaye de garder au maximum de pouvoir à Paris. Le problème de tout ça, c'est que ça montre. Alors, ça montre deux choses. La première, c'est que, d'un certain point de vue, les communards ne sont pas si isolés que ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie des républicains qui ne sont pas forcément prêts à suivre Versailles jusqu'au bout. Ça montre ça. Bon. Mais à partir du moment où la Commune, alors, le 6 avril, la Commune fait cette semaine-là un texte qu'elle envoie dans toute la province. Je dis qu'elle envoie parce que Versailles a coupé toutes les relations Paris-Province. C'est-à-dire que on peut plus, les journaux parisiens ne sortent pas de Paris, les courriers parisiens ne sortent pas de Paris. Alors la Poste se débrouille, elle fait sortir par des postes, soit des petites entreprises privées comme nos systèmes semi-privés aujourd'hui, qui sortent de Paris derrière les lignes prussiennes et qui utilisent le circuit français. Enfin voilà, il y a des petits systèmes comme ça, mais il y a un blocage total de toute la presse de Paris. Et donc... Quand la Commune édite un texte le 6 avril pour toutes les autres communes de France, c'est un texte qui dit « Suivez-nous ». Nous, on est pour l'autonomie communale, on n'est pas pour vous diriger, mais rejoignez-nous, fédérons-nous, enfin, etc. Et la Commune envoie des émissaires un peu partout en France, parce que si le courrier ne fonctionne pas, les gens peuvent à peu près circuler. Il y a des trains qui circulent, hein, les trains continuent à circuler. Et y compris, par exemple, les gens qui suivent la presse versaillaise ont écrit Paris à feu et à sang. Quand ils arrivent à Paris, ils ne comprennent pas. Parce que ce qu'ils voient dans la réalité n'a aucune relation avec ce que la presse versaillaise véhicule. Quoi. Et donc, pour revenir au conciliateur, l'Union nationale des chambres syndicales, ils cherchent parce que tout ça continue à fonctionner. Et puis, il y a plein de gens. Donc, Paris, la Commune de Paris n'est pas isolée totalement. Elle est isolée au fond politique sur le pouvoir populaire et les décisions. C'est un gouvernement du peuple, la Commune de Paris. C'est un gouvernement d'en bas. C'est un gouvernement de ceux qui pensent qu'ils peuvent eux-mêmes organiser la vie et décider. Bon. Et ça, c'est ce que refusent tous les autres. Mais la politique des Versaillais n'est pas suivie partout. Et donc, là, il y a un espace qui est très compliqué au plan politique à gérer et que la Commune est incapable de gérer vu ces divergences, le fait que les blanquistes rajoutent de temps en temps un peu d'huile sur le feu, l'interdiction des trois journaux réactionnaires n'a aucune utilité. Je veux dire, c'est pas ça qui change le rapport de force politique et militaire. Les journaux racontent des mensonges, c'est les fake news d'aujourd'hui, hein. Bon, c'est évident. Mais quelle utilité ça a pour la bataille? Bon. Et à ce moment-là, les blanquistes partent dans une autre chose, c'est ils déportent le décret des otages pour utiliser les otages pour obtenir un échange avec Blanqui. Et ils entament des négociations, pareil, dans le dos de la Commune, à partir de l'ex-préfecture de police, avec des intermédiaires. Pour raconter les détails, c'est pas très intéressant. Mais ça passe par l'archevêque qui est emprisonné, ça passe, il y a deux voies qui sont utilisées, ça passe par l'ambassadeur des États-Unis. Enfin voilà, il y a une vraie négociation pour avoir les otages contre Blanqui. Et Thiers refusera toujours la négociation avec la Commune pour deux raisons. D'abord, parce que c'est la Commune, et que donner un satisfecit, quel qu'il soit, à ces gens qui se décident par eux-mêmes, c'est pas possible. Et deuxièmement, parce qu'ils pensent que Blanqui, vu ses capacités militaires, ça vaut un régiment à lui tout seul, donc c'est pas la peine de... Bon. Mais voilà un peu ce qui se passe après cette défaite. Et on voit qu'on a déplacé le curseur des problèmes que peut traiter la Commune.
Thank you. extrait de l'article de Jean-Baptiste Millière, représentant de la Seine, dans la commune. Qui pourra nous sauver ? Le prolétariat ! De même qu'il y a 80 ans, le régime capitaliste s'est substitué au régime féodal, de même il faut qu'aujourd'hui le travail absorbe le capital. Et quand nous parlons du travail, nous l'envisageons sous toutes ses formes, agricole, industrielle, scientifique, artistique et commerciale. Les deux anciennes classes de la noblesse et du tiers-état se sont réunies pour former la bourgeoisie. À son tour, la bourgeoisie doit se fusionner avec le prolétariat pour ne constituer qu'une seule classe, le peuple. Ce sera là le caractère distinctif de la révolution dans laquelle nous entrons. Le prolétariat français est-il dès à présent en mesure d'accomplir cette œuvre de régénération ? À Paris et dans quelques autres grandes villes, oui, le prolétariat est assez préparé pour la tenter avec succès. Mais dans la plupart des petites villes, et surtout dans les villages, il en est encore incapable. Et c'est là le grand écueil de la révolution communale commencée à Paris. Si cette révolution, destinée à régénérer le monde, s'effectuait sur toute la surface de la France, elle pourrait procéder par la base. Mais si, dès à présent, on laisse à chaque commune la faculté de s'organiser à sa guise, au lieu de continuer l'œuvre de la civilisation, elle la détruira. Au lieu de marcher en avant, la société française reculera jusque dans la nuit du Moyen-Âge et l'on verra se produire un phénomène de réaction bien autrement monstrueux que celui qui s'est manifesté lors de l'élection. De là les difficultés qu'éprouve le Conseil communal de Paris. La question de l'organisation de la commune se pose aujourd'hui dans des conditions on ne peut plus défavorables et qui rendent impossible une bonne solution.
Des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les euros même sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Les flibustiers, les gens tarés, les parvenus par l'aventure, les complaisants, les décorés, Jean le Boursier de coin de rue, amants de filles au rebut, bouillent comme un tas de verrues sur les cadavres des vaincus.
C'était Du chien dans le ventre, la commune au jour le jour. Aujourd'hui, épisode 3, l'espoir du triomphe. Les voix ont été enregistrées au théâtre de la Cité à Toulouse en mars 2021, lors de l'occupation de celui-ci par les intermittents et précaires. Merci donc à Marca, Loulou, Sissi, Isabelle et Albertine pour la lecture des textes. Merci à Ego Aguerail, merci à Christine, Camille et Mara pour l'ambiance sonore. Merci également à Laure et Julia de Fréquence Paris Pluriel. Montage et réalisation, Pierre Baron.
On est autorisé à ne pas sans arrêt recommettre les mêmes erreurs. C'est le premier pouvoir ouvrier sur cette planète.